Nicolas Gogol, le corps sanglant. Au commencement du printemps de l'année 1543, mille nuits, le silence du petit village Lancomier fut troublé soudain par un détachement de troupes de la couronne. La lune, échancrée en croissant, se montrait par instants entre les nuages qui, l'un après l'autre, la couvraient, et éclairait alors la vision dans laquelle est situé le village. À l'étonnement des rares habitants qui étaient éveillés, le détachement, dont l'apparition seule était autrefois une certitude de pillage et de violence, traversa le village dans un silence impressionnant. Toute son attention était concentrée sur un prisonnier accoutré de la façon la plus étrange qu'aucune violence n'ait jamais pu inspirer à un être humain. Des pieds à la tête, son corps était couvert de fusils, retenus par des liens. À son dos était attaché l'affût d'un canon. Le cheval qui le portait avait peine à marcher. Et le malheureux prisonnier serait tombé depuis longtemps si de solides cordes ne l'eussent attaché à la selle. Si un rayon de soleil avait pour un instant éclairé son visage, sûrement on eût vu une sueur sanglante couler sur ses joues. Mais la lune ne permettait pas de voir son visage, qui était recouvert d'un grillage d'acier. Les habitants curieux, bouche bée, parfois osaient s'approcher un peu, mais apercevant le sang et le poing menaçant ou le sabre d'un soldat, vite ils s'enfuyaient vers leur chétive demeure en se recroquevillant dans leur pelouse lisse. Tartare, jetée sur l'épaule et frissonnant à la fraîcheur de la nuit. Le détachement traversa le village et atteignit un couvent isolé. Il était situé sur une hauteur à l'extrémité du village, se composant de deux bâtiments juxtaposés. La partie inférieure de l'église, en pierre, était toute lézardée, entamée, noircie, verdâtre, couverte de ronces, d'orties et de campanules sauvages. Elle portait sur elle toute l'histoire du pays. Le haut de l'église, avec ses cinq coupoles en bois, apanage de l'architecture byzantine débravée et exagérée encore par la barbarie de ses imitateurs, était tout en bois. Des taches jaunes, des platanes neuves parmi les vieilles, noircie, montrait que tout récemment l'église avait été réparée par les paroissiens pieux. Un rayon pâle du croissant, se frayant un chemin à travers les pommiers, dont les branches couvraient d'une partie de bâtiment, tombait sur une porte basse et sur la frise la surmontant. Un homme du détachement, aux moustaches immenses, plus longues qu'on n'ait jamais vues, plus longues que ses bras, et qu'à ses manières, son regard hardi et impérieux, on pouvait reconnaître pour le chef, frappa à la porte avec le canon de son fusil. Les vieux murs du monastère répondirent, et il sembla qu'une voix mourante se perdait tristement dans l'air. Puis ce fut de nouveau le silence. Les injures, en différentes langues, sortaient de dessous les moustaches immenses du chef. « Maudit calot de calotin ! Oh, je savais quoi vous éveiller, moi !» Et un coup de pistolet éclata. La balle traversa la porte, atteignit la fenêtre de l'église, dont la vitre avec fracas tomba à l'intérieur. Cela provoqua le trouble dans les cellules groupées autour de l'église. Des lumières parurent. On entendit le bruit d'un trousseau de clés. Les portes s'ouvrirent avec un grincement, et quatre moines, le supérieur en tête, pâle, parurent la croix à la main. Retirez-vous, impur pêcheur, prononça le supérieur d'une voix tremblante, à peine perceptible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez-vous-en au diable. Qu'est-ce qui nous chante là, ce chien maudit? Tonna le chef dans une langue à laquelle on ne pouvait même pas donner de nom. Que dis-tu, que nous sommes des diables? Nous ne sommes pas des diables, mais des soldats de la couronne. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Pourquoi êtes-vous venu troubler l'église orthodoxe? Prononça le supérieur. Mais chien, je te nettoierai les yeux avec de la poudre. Allez, donne-nous tout de suite les clés des caves du couvent. Et qu'avez-vous besoin des clés de nos caves? Stupide pope! Oh, je ne veux pas causer avec toi. Parle avec mon cheval, si tu veux. Frère Cassian, apporte les clés à ces entrées tristes, dit le supérieur, s'adressant à moine. C'est bon, il n'y a pas de vin. Aussi bien que Dieu est saint. Pas un fruit, ni petit ni grand. Même ce qu'il vous faudrait. Oh, cela ne vous regarde pas. Mes hommes veulent boire. Je te dis, pop, stupide, que si tu ne donnes pas à nos chevaux le four des l'avoine et le breuvage, je les mettrai dans votre église. À toi, j'enverrai ma botte dans le museau. Le supérieur, sans mot dire, tournait vers ses yeux couleur de plomb, qui semblaient depuis longtemps ne plus appartenir à ce monde, parce qu'il n'exprimait aucune passion. Et il rencontra les yeux du chef fixés sur lui. Il détourna son regard et s'arrêta sur l'étrange prisonnier au masque de fer. Cette vue sembla frapper le vieillard, presque insensible à tout, hors son église. Pourquoi avez-vous saisi cet homme? Dieu, Seigneur, que ta droite s'apesantisse sur eux. C'est probablement un nouveau martyr pour la foi du Christ. Le prisonnier ne poussa qu'un faible gémissement. Les clés ayant été apportées à la lumière d'un tison, toute la bande s'approcha de l'entrée d'une sorte de caverne qui se trouvait derrière l'église. Aussitôt engagée sous la voûte de la terre lugubre, une humanité sépulcrale les enveloppa. Le chef du détachement marchait en silence. La lumière vacillante du tison, entourée d'un cercle vague, projetait sur son visage un reflet pâle, tandis que l'ombre de ses énormes moustaches, repliées en haut, s'allongeait sur tous comme deux immenses barres. Les parties saillantes de son visage étaient seules éclairées nettement. Elles permettaient de voir une expression sans aucun sentiment, témoignant que tout était mort en cette âme, que pour cet homme le plus grand plaisir était le tabac et l'eau de vie, et que le paradis était là où tout tremble et s'écroule sur le coup de sa main ivre. Il était un mélange de toutes les nationalités frontières, serbe par la naissance, hongrois par son amour de la boisson, polonais par son costume et sa langue, juif par son avidité pour l'or, cosaque par sa facilité à le jeter, et démon par son indifférence à tout. Il paraissait calme. Toutefois, par moments, de dessous ses moustaches sortaient des jurons, surtout quand le sol inégal, de plus en plus mou, le faisait trébucher. Il examinait attentivement Les trous percés dans ce mur de terre, jadis des cellules, l'unique assise dans cette contrée où chaque année la destruction s'abattait sur les steppes et les champs, où personne n'avait élevé de solides bâtiments et châteaux, sachant combien fragile était leur existence. Enfin, on atteignit une porte en bois couverte de mousse que barraient de lourdes poutres et des pierres. Le chef s'arrêta et, curieusement, regarda la porte de bas en haut. « Eh bien, » dit-il en l'indiquant du sourcil. Il semblait qu'un vent soufflât de ce sourcil. Quelques soldats se mirent au travail et non sans grands efforts repoussèrent les poutres et la porte s'ouvrit. Mon Dieu, quelle demeure se présentait à leurs yeux! Les assistants se regardèrent en silence avant d'oser rentrer. Il y a quelque chose de terriblement sépulcral dans les entrailles de la terre. Là, dans sa majesté règne la mort, qui étend ses membres osseux sous toutes les villes florissantes, sous tout le monde vivant et gai. L'odeur de pourriture était si forte qu'à tous le souffle manqua. Un crapaud d'une taille gigantesque s'arrêta immobile, écarquillant ses terribles yeux sur les violateurs de sa solitude. C'était une caverne carrée, sans aucune autre issue. Des flocons de toile d'araignée pendaient à la voûte. La terre, détachée de la voûte, formait par-ci par-là sur le sol de petits tas. Et sur l'un de ces tas se voyaient des ossements humains. Des lézardes circulaient comme des éclairs. Le hibou ou la chauve-souris eussent paru ici une beauté. « Ah, voilà une belle chambre !» hurla le chef. « Que le diable éternue dans mon palais !»« Oh, pour moi, chien, ce sera assez bien de dormir ici. Allez, couche-toi sur ces os. Et sous ta tête, mes crapauds plutôt. » Prends-le à lui pour femme. L'un des soldats voulut répondre à cela par rire. Mais le rire résonnait si terriblement sous la voûte humide que le rieur lui-même en eut peur. Le prisonnier, qui était immobile, fut poussé au milieu. Il entendit le grincement de la porte refermée, le bruit des poutres replacées, et la lumière avait disparu. Les ténèbres remplissaient la caverne. Malheureux tressaillit. Il lui semblait que le couvercle du cercueil venait de retomber sur lui, et que le bruit des poutres était celui de la pelle quand la terre sinistrement tombe sur les derniers vestiges de l'existence d'un homme. Tandis que la foule indifférente dit « Il a été, il n'est plus. » Le premier sentiment d'horreur vécu, le prisonnier se livra à une attention soutenue comme celle à laquelle, inconsciemment, s'abandonne l'homme quand le coup qui lui a été porté est si terrible, il ne peut même plus penser à soi. Et au lieu de cela, il fixe ses regards sur une chose indifférente et l'examine. Alors il appartient à un autre monde. Il ne prend plus aucune part aux choses humaines. Il regarde sans voir, sans mais ne perçoit pas les couleurs, les odeurs. Il vit étrangement. Tout d'abord, son attention se concentra sur l'obscurité. Momentanément, tout était oublié, même son effroi et la pensée d'être en celui vivant. De tout son être, il se concentrait dans l'obscurité. Alors, devant lui, surgit un monde tout à fait nouveau, étrange. Dans les ténèbres commençaient à se montrer à lui des regards clairs, le dernier souvenir du monde. Et ces rayons prenaient une multitude de différentes formes et couleurs. Pour l'œil, il n'existe pas de ténèbres absolues. On a beau le fermer, et toujours il dessine et représente les couleurs de la vie qu'il a vue. Ces dessins bizarres prenaient l'aspect tantôt d'un char bariolé, tantôt d'un marbre polychrome. Dans cet aspect qui nous frappe par son étrangeté, quand nous examinons un microscope, un fragment d'aile ou de patte d'un insecte, tantôt le châssis élégant d'une fenêtre, qu'hélas, il n'y avait point dans sa prison, passait devant lui. Bientôt, tout ce monde peu à peu disparut. Le prisonnier sentit autre chose. D'abord, il ne se rendit pas compte de ce que c'était, et ensuite, cela commença à prendre corps. Il sentait sur sa main quelque chose de froid. Ses doigts touchaient quelque chose de gluant. La pensée du crapaud lui vint soudain. Il cria et d'un coup se transporta dans le monde réel. Toute l'horreur de la réalité se présenta à lui. À cela s'ajoutait l'épuisement de ses forces, l'air suffocant, et il tomba dans un long évanouissement. Pendant ce temps, le détachement des troupes de la couronne s'installait dans les cellules des moines comme chez soi. Ils avaient forcé les moines à nettoyer les écuries et festoyaient de joie d'avoir enfin capturé celui qu'il fallait. « Ah, on l'a pris, ce chien maudit !» s'exclamait le chef moustachu. « On va savoir comment il se fait que ces chiens sont si rapides pour s'enfuir. Mes enfants, allons-lui demander qui était avec lui. Que le diable lui arrache, crache dans son plat. » Les soldats descendirent. Ils trouvèrent le prisonnier évanoui. « Donne-lui quelque chose à respirer !» Un soldat mit de la poudre dans la main sur laquelle le prisonnier appuyait sa tête et l'enflamma. Le prisonnier éternua et souleva la tête comme après un rêve fiévreux. « Donne-lui un coup de bâton. Dis-nous qui est ton complice de brigandage. » Les 12 diables enlèvent la mer, oui. Où sont des compagnons ? Le prisonnier garda le silence. Mais je t'interroge, chien. Enlevez-lui son masque et l'étoffe. Canaille, oh, je connais bien ta gueule. Pourquoi te caches-tu ? Les soldats se mirent à la besogne. Ils cherchèrent le tissu de soie noir dans lequel le prisonnier cachait sa tête. Ils arrachèrent le masque et, stupéfaits, ils virent deux tresses noires qui tombaient de la tête sur sa poitrine. Un visage d'une blancheur extraordinaire, pâle comme un marbre, les lèvres décolorées et un sein virginal nu, qui tressaillait de honte et de pudeur. Le chef du détachement en demeurait bouche bée. « Est-ce une femme ?» demanda-t-il enfin au soldat. « Oui, une femme, répondirent ceux-ci. « Comment est-ce possible ? Nous avons poursuivi un cosaque. » Les soldats levèrent les épaules. « Oh, mais à la torture, cette femelle !» « Mais comment as-tu osé, stupide femme ? Allez, parle ! Où est ce maudit ? Où est Ostrajanitsa ?» La femme, à demi-morte, ne répondit rien. « On te forcera à parler, que le diable t'emporte !» cria de rage le chef. Et cassez-lui les bras! Deux soldats saisirent ses bras nus, blancs comme la poussière des vagues. Un cri déchirant sortit de sa bouche. Quoi, femelle du diable, parleras-tu maintenant? Oui, gémit la victime. Bon, laissez-la. Dis-nous, ce fils de chien. Mon Dieu, prononça-t-elle doucement en joignant les mains. Combien peu de force à une femme. Oh, pourquoi ne puis-je pas supporter la douleur? Mais je dois savoir où il est. Les lèvres de la malheureuse remuaient, semblaient prêtes à prononcer quelque chose quand, soudain, une exclamation extraordinairement étrange la retint. Du fond de la caverne arrivaient des paroles suppliantes. « Ne parle pas, Anna. Ne dis rien, petite Anna. » Et la voix qui prononçait ces paroles, quoique très basse, était pénétrante et sauvage. Elle semblait quelque chose d'intermédiaire entre la voix du vieillard et celle d'un enfant, avec une expression n'ayant rien d'humain. Les assistants sentaient leurs cheveux se dresser sur leur tête et un frisson courut dans leurs veines. C'était comme cette voix horrifiante, noire, que l'homme entend au moment de la mort. Le chef tressaillit et inconsciemment se signa, car il tenait toujours pour catholique. Une minute après, il me sembla que ce n'était qu'une hallucination. Les soldats fouillèrent la caverne et ne trouvèrent rien, sauf des crapauds et des lézards. « Parle !» prononça-t-il de nouveau, cette fois, pourtant, sans ajouter le blasphème. Elle se taisait. « Eh bien, la torture !» Les bourreaux lui saisirent les mains, et ses mains blanches, comme la neige, par lesquelles des centaines de chevaliers eussent rompu les lances, ces belles mains que baisaient seulement eût été le bonheur, ces mains de marbre devaient endurer les souffrances de l'enfer. Peu d'hommes auraient pu supporter ce spectacle terrible. Quand un des soldats, avec une brutalité inouïe, lui cassa deux doigts, le bruit de ses os se faisant n'était pas grand. Cependant, les murs même de la prison semblèrent l'entendre. La femme ne proféra pas un son. Les contractions de son visage décidaient seules et devinaient sa souffrance et ses lèvres tremblaient. « Mais parle, maudite garce !» cria le chef que réjouissaient les souffrances d'une faible. À peine eut-il prononcé ces paroles que de nouveau la même voix insupportable se fit entendre nettement et prononça « Ne parle pas, ma petite Anna !» Cette fois, la peur étreignit l'âme du chef. Tous se tournèrent du côté d'où venait cette voix. Et quoi ? L'horreur les saisit. Jamais fantôme plus terrible ne pouvait se présenter à des yeux humains. Un spectacle plus effrayant ne pouvait être. C'était un homme dont toute la peau était arrachée. Il était tout sanglant. Les veines seules formaient un réseau bleu se ramifiant sur tout le corps. Le sang coulait goutte à goutte. Une pendule retenue par une courroie était suspendue à son épaule. Et dans le visage ensanglanté, les yeux brillaient étrangement. On ne peut dépeindre l'effroi des assistants. Tous paraissaient pétrifiés. Mais cette apparition, qui ôtait la force aux forts, la rendit aux faibles. Et rassemblant tout son courage, la jeune prisonnière se glissa doucement vers la porte et pénétra dans la galerie, dont l'air méphitique, en comparaison de sa prison, lui parut paradisiaque. 1832.